Vous écoutez RCJ. RCJ. 94-8. Un média du Fonds social juif unifié.
Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Soyez les bienvenus sur l'antenne de RCJ. Nous sommes le mardi 27 octobre 2020 et voici les titres de votre journal.
Le journal avec Best Fenêtre. Avant que le froid ne revienne, c'est le bon moment pour penser à votre isolation. Fenêtre, porte-fenêtre, de fabrication française au meilleur prix. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16.
RCJ.
Le journal. Rudy Saada.
Face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement étudie trois options de reconfinement lors de deux conseils de défense. Emmanuel Macron devra trancher entre un reconfinement total du pays, des reconfinements locaux ou un durcissement du couvre-feu à 19h et les week-ends. Nous évoquerons la situation sur le plan sanitaire avec le docteur Nathan Albez, interne en cardiologie à la Pitié-Salpêtrière, et sur le plan politique avec l'expert en communication Julien Auffray. La 9e semaine du procès des attentats de Charlie Hebdo d'Hypercacher se poursuit au palais de justice de Paris avec hier l'audition très mouvementée de Ali Reza Polat, âgé de 35 ans. Il est le seul des accusés présents à être jugé pour complicité d'assassinat terroriste et donc à risquer la réclusion criminelle à perpétuité. On écoutera le compte-rendu d'audience d'Églantine Delalleux. La France est la cible d'une menace terroriste élevée, ce sont les mots de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, dans une note envoyée à ses services. Il évoque une menace donc élevée, des appels répétés de la part d'organisations terroristes, notamment autour des lieux de culte musulmans dont les représentants ont publiquement condamné les attentats terroristes. C'est dans ce contexte tendu que le président du Conseil du culte français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, appelle les musulmans de France à soutenir le pays. Il n'est pas raisonnable de dire que les musulmans sont persécutés dans leur pays. Une réponse aux propos de Recep Tayyip Erdogan, qui a une nouvelle fois appelé hier au boycott des produits français et qui a estimé que la situation des musulmans était semblable à celle des juifs avant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et puis en fin d'édition, nous irons en Israël retrouver Gérard Benamou, notre correspondant permanent. Israël, où les chiffres de contamination au coronavirus continuent donc de baisser. L'occasion pour le gouvernement de voter la réouverture de la station balnéaire d'Elat au sud du pays. On parlera également des espoirs de vaccins.
L'info en France.
Emmanuel Macron préside ce matin un conseil de défense sanitaire face à une situation qui inquiète de plus en plus. 26 771 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche, soit un doublement par rapport au dimanche précédent. 258 décès recensés ces 24 dernières heures. Le taux de positivité s'élève désormais à 17,8% contre 17% samedi. Face à la situation qui ne s'améliore guère, le gouvernement donc travaille à trois scénarios différents. Un reconfinement total, un reconfinement localisé par région et par ville. Un couvre-feu étendu est également à l'étude. Le gouvernement attend d'observer d'éventuels effets du couvre-feu actuellement en cours. La décision finale sera prise demain à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Et pour prendre le pouls du terrain, nous sommes ce matin en ligne avec le docteur Nathan Albez, interne en cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre de l'AMIF, l'association des médecins israélites de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin et de prendre le temps de répondre aux questions de la rédaction d'RCJ. Donc, le service dans lequel vous travaillez avait reçu de manière exceptionnelle des patients Covid lors de la première vague. Quel est l'état d'esprit des soignants avant d'affronter cette deuxième vague qui paraît inévitable ?
Alors, effectivement, on avait reçu, alors qu'on est en cardiologie, donc a priori pas particulièrement concerné par le Covid, on avait transformé la moitié du service en service Covid. Et ce qu'il faut souligner pour répondre à votre question, c'est que l'adaptabilité des équipes a été exceptionnelle. Ce qu'on a vu, que ce soit de la part médicale, mais surtout paramédicale, c'est des gens qui comptaient pas leurs heures et qui ont su très rapidement transformer tout à fait leur modalité d'exercice sur des maladies dont ils n'avaient pas l'habitude. Et là, par rapport à la deuxième vague, clairement, je pense que les équipes sont prêtes, mais les équipes ne souhaitent pas encore voir cette deuxième vague arriver dans leur service, ou souhaitent l'avoir arrivée la plus tardivement, pour la bonne et simple raison que c'était une période qui était très dure psychologiquement, non pas parce que les gens ont dû plus travailler. Ça, tout le monde n'a pas compté ses heures. Les gens restaient plus, venaient plus tôt. Mais pour la contrainte psychologique, du fait que on a des patients très graves, beaucoup de décès, des histoires catastrophiques. Et je pense que c'est surtout de refaire face à cette situation qui inquiète les équipes qui, par ailleurs, sur le plan médical, sont prêtes. Ça, c'est certain.
Est-ce qu'elles sont mieux armées qu'au mois de mars ?
Alors, je pense qu'on est clairement mieux armé. Un mois de mars qui nous a limité, dans un premier temps, c'est la non-connaissance de cette maladie. Là, clairement, on la connaît mieux, même si malheureusement, ce qui ressort, c'est que pour l'instant, nous n'avons toujours pas de traitement qui est clairement efficace. Et ce qui a également manqué, c'est le manque de matériel qui a été également énormément problématique dans la première vague. Et là-dessus, les équipes sont clairement plus prêtes. Ce qui est certain, c'est que si jamais le nombre de nouveaux cas graves est trop important, au bout d'un moment, il y aura forcément des limites matérielles pour pouvoir prendre en charge tous ces malades.
Alors, tous les pays européens sont actuellement dans une situation similaire. Pourquoi, selon vous, on n'a pas su éviter cette deuxième vague ? Est-ce que la responsabilité est collective ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on paye, entre guillemets, les effets du déconfinement. Ce déconfinement, il a été nécessaire sur un plan économique et aussi sur un plan individuel. Ce qu'on a observé, c'est que les gens, en mars, au tout début, étaient très, très sérieux sur tout ce qui était mesures de prévention. Et au bout d'un moment, on devient moins prudent et il y a un espèce de ras-le-bol qui arrive même chez les personnes les plus impliquées. Donc, ce déconfinement a été là. Il a soulagé tout le monde et forcément, les gens n'ont pas fait attention. Il y a eu vraiment un switch total entre la veille où tout le monde était cloîtré chez soi et le lendemain où les gens sont ressortis, on refait la fête. Et ce dont il faut se rappeler dans l'épidémie actuelle, c'est que entre un contact et le fait de devenir malade, entre le fait de devenir malade et de devenir grave, le fait de devenir grave, de passer en réanimation, il y a un laps de temps qui à chaque fois prend une dizaine de jours. Donc finalement, entre l'effet d'une mesure, qu'elle soit positive ou négative, entre le début d'une mesure et l'effet qu'elle fait sur la santé publique, il y a au moins un mois. Et donc là, on est en train de payer les vacances et la rentrée et le déconfinement. Donc la responsabilité, je pense qu'elle est collective et politique et sociétale. Maintenant, est-ce qu'elle était évitable ? Ça, je ne sais pas.
Alors le gouvernement décidera donc demain de mesures qui pourraient entrer en vigueur dès le week-end prochain ou la fin du week-end prochain. Comment, dès maintenant, renforcer notre vigilance, sachant que le virus circule énormément ? Est-ce qu'il faut, par exemple, éviter de visiter ses proches ? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour relever chacun notre niveau de vigilance ?
Alors, c'est une excellente question parce que clairement, même s'il y a des règles établies par le gouvernement, je pense que le fait de prendre soi-même des mesures est primordial. Et typiquement, aujourd'hui, on constate par exemple qu'en Italie, le nombre de nouveaux cas va moins vite. Et une des explications avancées, c'est qu'ils ont tellement été touchés par la première vague que maintenant, même sans les règles du gouvernement, ils sont tous très prudents. Donc nous, sur ce qu'on peut faire, je pense que premièrement, il faut dépassionner toutes les règles. Il y a des règles à appliquer, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à en débattre, je pense. En tout cas, il ne faut pas que ça nous énerve ou au contraire qu'on soit un fervent défenseur. Il faut les appliquer. Et ces règles, clairement, c'est le port du masque. Ça, c'est assez, ça a été assez adopté. Les gens le font. Au début, il y a une petite résistance et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien de catastrophique à porter un masque. Par contre, une chose sur laquelle je pense qu'il faut insister parce que ce n'est pas assez souligné, c'est l'importance de l'hygiène des mains. Autant aujourd'hui, tout le monde a son masque avec lui, autant quasiment personne n'a une petite bouteille de solution hydroalcoolique avec lui. Et cette hygiène des mains, elle est quasiment aussi importante que le port du masque parce que les mains, c'est un très grand vecteur de la maladie. Donc en plus du masque, augmenter son hygiène des mains. Et pour finir, comme vous l'avez dit à raison, on sait très bien que cette épidémie ne touche pas de la même manière les jeunes et les personnes à risque. Pour rappel, les personnes à risque, c'est les personnes âgées au-dessus de 65-70 ans et les personnes qui ont une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Et ces personnes, il faut les protéger. Je ne pense pas forcément qu'il faut les isoler, mais clairement, si on les rencontre, il faut que ce soit avec des règles d'hygiène qui sont maximales, donc en mettant le masque, se lavant bien les mains. s'isoler à table, un en bout de table, et des choses comme ça. Et surtout, limiter les visites, passer une heure pour un repas, repartir. Voilà, donc en synthèse, ce que j'aurais à dire, c'est le respect du port du masque, une amélioration de l'hygiène des mains et savoir protéger les personnes à risque qui sont les personnes âgées et les personnes présentant des maladies chroniques.
Merci à Nathan Albez, interne en cardiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre de l'AMIF. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le tour de vis est le même donc dans toute l'Europe où les gouvernements tentent de faire face à cette deuxième vague. L'Italie a décidé de renforcer les restrictions tandis que plusieurs pays durement touchés ont imposé des couvre-feux pour éviter à des nouveaux confinements généralisés. En Italie, les cinémas, les théâtres, les salles de gym, les piscines ont fermé leurs portières et ce jusqu'au 24 novembre. Les bars et les restaurants doivent cesser de servir après 18h et 75% des cours dans les lycées et les universités se feront en ligne. En Espagne, la Catalogne réfléchit à un éventuel confinement de la population à domicile pendant les week-ends, une mesure plus sévère que le couvre-feu nocturne qui est actuellement en vigueur et ce depuis dimanche. Et puis en Allemagne, le marché de Noël de Nuremberg, mondialement connu, lui a été annulé. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron devra donc prendre une décision. Comment trouver l'équilibre entre santé publique et vie économique? Eh bien, on en parle dans un instant avec Julien Auffray, expert en communication politique. RCJ, il est 8h11. Pour toi,
à la suite de l'offensive massive de l'Azerbaïdjan le 27 septembre dernier, les populations et les infrastructures civiles de l'Artsakh ont été visées. Des centaines de blessés et des dizaines de morts. Le FSJU, fidèle à ses valeurs de solidarité, de paix et de porteur de mémoire, se mobilise aux côtés de la Fondation Aznavour pour apporter notre soutien aux populations civiles arméniennes. 100% de vos dons seront reversés à la Fondation Aznavour. Agissez maintenant pour venir en aide aux populations touchées et donner sur fsju.org.
Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Michel Bougenin. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour La Vare de Molière.
La Vare au Théâtre des Variétés avec Michel Bougenin le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de RCJ.
Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
La deuxième vague du Covid-19 flambe en Europe et l'exécutif va devoir trancher. Le président Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense sanitaire avant que son Premier ministre Jean Castex ne reçoive en fin de journée les forces politiques, puis les partenaires sociaux à Matignon. L'hypothèse d'un nouveau confinement prend donc corps face à une situation qui s'aggrave. Une séquence délicate pour l'exécutif qui s'est donné donc 48 heures pour trancher avec l'idée donc d'éviter ce confinement total. Julien Auffray, bonjour.
Bonjour, Rémi.
Vous êtes expert en communication politique et associé de l'agence La French Com. Merci d'être avec nous ce matin. On a vu depuis ce week-end de nombreux médecins sur les plateaux télé, sur les radios, qui ont en quelque sorte sommé l'exécutif à agir vite. L'opinion publique n'a pas l'air opposée à un confinement. Pourtant, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron ne veut pas abandonner ce concept de vivre avec le virus. Pourtant, on en est vraiment déjà loin.
Bah effectivement, malgré tout, il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant, c'est que à peu près tout ce qui se fait de mieux parmi les grands spécialistes, on nous avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague, mais visiblement, on est visiblement surpris par ce qui est en train de se passer depuis 10 jours. Il y a cette forme d'amnésie collective qui fait que bon, on avait presque l'impression que le virus avait disparu. Emmanuel Macron, c'est son côté libéral. Son objectif, c'est de faire en sorte que oui, l'économie continue, que bah oui, de toute façon, le virus, il va être là jusqu'à l'été prochain, donc il va bien falloir à un moment ou à un autre vivre avec le virus. Le problème, mais c'est toujours très facile de critiquer parce que nous à la Frenchcom nous gérons des crises toute l'année. On le voit, c'est toujours facile de dire à quelqu'un vous n'avez pas assez géré, vous n'avez pas géré une crise comme il fallait, etc. Tout simplement, c'est que le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'anticipe pas. Ça, c'est vraiment le principal problème. On est dans la réaction. Il y a un pic épidémique, on confine. Il y a une baisse de l'épidémie. On relâche. Il y a de nouveau un pic épidémique. De nouveau, il y a... Donc, en fait, ça n'en finira jamais. Il faut que le gouvernement trouve des solutions beaucoup plus pérennes et beaucoup moins ponctuelles.
Et au niveau justement de la communication, est-ce que vous pensez que l'exécutif n'a pas prévenu assez tôt ou assez fort les Français sur les conséquences d'un relâchement ? On se souvient de Jean Castex qui tirait la sonnette d'alarme dès le mois d'août, début septembre. Est-ce que finalement on a mal communiqué avec les Français ?
Alors, je pense qu'il y a eu deux parties. La première, c'est que je pense que les gouvernements successifs, de Philippe et Castex, ont clairement martelé qu'il fallait faire très attention. Ça a été dit, ça a été martelé. Je pense que de ce côté-là, c'est pas du tout un sujet.
Mais ça n'a pas été entendu.
Je pense effectivement qu'il y a une sorte de ras-le-bol généralisé qui fait que, les Français commencent à se dire. Bon, alors cet été, il y a eu un relâchement et donc on paye évidemment parce que le pic épidémique aujourd'hui, c'est le relâchement de cet été et le fait que les gens sont moins dehors et sont beaucoup plus à l'intérieur du fait des températures hivernales. Donc, il y a un sujet. Donc, sur cette partie de la communication, ça a été martelé. Mais de l'autre côté, il y a eu un nombre incalculable de couacs de communication de crise qui a brouillé complètement les messages. Quand vous avez un ministre le lundi qui dit A, que vous avez un autre ministre le mardi qui dit B, et qu'il y a Emmanuel Macron qui dit C le mercredi lors d'une conférence de presse, plus personne ne comprend rien, les messages viennent de partout, les Français ne comprennent plus ce qu'il faut faire. Et donc effectivement, plus on va aller vers des mesures coercitives, plus on va aller vers des mesures restrictives, plus les Français vont comprendre. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que les Français sont prêts ? Ça, je doute que les Français soient prêts à ce qui se murmure aujourd'hui, c'est-à-dire à un confinement les week-ends, à un couvre-feu qui démarrerait à 18h. Tout ça, je ne sais pas vraiment si les Français sont prêts à ça.
Julien Onfray, est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que il fallait, selon vous, dès le début de cette pandémie, jouer et annoncer le temps long, c'est-à-dire préparer le pays à une longue bataille qui, maintenant, on le sait, nous mènera très probablement après l'été 2021 ?
Alors oui, ça c'est, je réponds très clairement, il est évident qu'il fallait préparer le pays à une bataille longue et difficile qui allait nous mener, en fait, qui allait nous préparer pendant un an à gérer cette crise. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le paradoxe de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est que ils l'ont dit dès les débuts. Ils l'ont dit. Emmanuel Macron l'a très clairement dit lors de l'un de ses premiers discours. Il a dit, ça va être une situation extrêmement longue. Préparez-vous. Mais le problème, c'est que c'est toujours des discours. Il est très bon dans les discours, mais dès qu'il faut passer aux actes, c'est-à-dire en termes d'anticipation et en termes de préparation sur le long terme, là, il y a un couac. Alors, évidemment, une crise comme ça, comme je vous disais, c'est facile de critiquer, mais une crise comme ça, personne n'en a connu dans l'ère contemporaine, en tout cas depuis la grippe espagnole. Donc, la gestion d'une crise telle que celle-là, elle est très compliquée, puisque aujourd'hui, évidemment, il faut lier le côté humain et le côté économique, puisqu'évidemment, aujourd'hui, tout est ouvert, tout est imbriqué. Et donc, il va, à un moment ou à un autre, de toute façon, il va bien falloir choisir entre les vies humaines et la vie économique de notre pays.
Merci Julien Onfray, expert donc en communication politique associé à l'agence FrenchCom. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 8h18. Dans un instant, nous prendrons la direction du Palais de justice de Paris où le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher se poursuit.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer ? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bain et déco.fr.
Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille ? Eva découvrira-t-elle le passé de son père ? Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Déborah El-Malek, aux éditions Écriture.
Entre insultes, protestations et cris, l'interrogatoire d'Ali Reza Polat s'est révélé cacophonique et tendu lors du procès des attentats de janvier 2015. Âgé de 35 ans, l'accusé est le seul présent à être jugé pour complicité d'assassinat terroriste et donc à risquer de la réclusion criminelle à perpétuité. Le compte-rendu de l'audience avec Églantine Delalleux.
Vous voulez un coupable, mais ça ne va pas être moi. Coupe de cheveux très courte, chemise blanche et silhouette enrobée. Ali Reza Polat s'avance devant son micro en cette 41e journée d'audience au procès des attentats de janvier 2015. Il est le dernier accusé présent à être interrogé sur son rôle présumé. Il est soupçonné d'avoir aidé les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly à préparer les attentats en recherchant et en fournissant des armes, munitions et explosifs. Dès le début de son interrogatoire, le président de la cour lui rappelle de garder son calme. La raison ? Depuis plusieurs semaines, l'accusé multiplie les insultes, les agitations et les vociférations. Il n'hésite pas alors à lui répondre « Comment je peux être complice des faits reprochés alors que j'ai jamais vu les frères Kouachi et qu'on n'a jamais retrouvé mon ADN sur les armes ou les véhicules ?» Ce franco-turc est le seul des accusés présents à être jugé pour complicité d'assassinat terroriste. Puisque selon les enquêteurs, il aurait eu connaissance des projets d'attentats terroristes et partagerait l'adhésion de l'idéologie du djihad armé. Mais pour Ali Reza Polat, rien ne permettait de connaître les objectifs du terroriste de l'hyper-cacher. On dit qu'il serrait pas la main des non-musulmans. « Ma mère est pas musulmane et il lui serrait la main et rigolait avec », déclare-t-il. N'ayant jamais travaillé, l'accusé répète tout au long de son interrogatoire avoir toujours fait, je le cite, « des magouilles ». Je suis né sans rien, je veux de l'argent, c'est mon but dans ma vie, clame-t-il. Des sommes d'argent qui pouvaient monter par exemple jusqu'à 50 000 euros en une seule journée. Originaire de Grigny, il rencontre Hamedi Koulibaly en 2007 et il commence alors à faire des escroqueries et du trafic de stupes ensemble. Quelques mois avant les attentats, Ali Reza Polat raconte avoir rendu des services aux terroristes à cause d'une dette de 15 000 euros. Hamedi Koulibaly, ce qu'il a fait, c'est de la merde. C'est au-dessus de tout ce que je peux faire dans ma vie. J'ai pas donné une arme, j'ai jamais était l'intermédiaire, proclame-t-il. En lien téléphonique jusqu'à la veille de l'attaque de Charlie Hebdo avec le terroriste, il raconte n'avoir jamais autant tremblé le jour de l'attentat de l'hypercacher lorsqu'il a vu l'identité de l'assaillant. Selon les enquêteurs, il se serait alors débarrassé de ses puces téléphoniques et aurait même tenté de rejoindre les rangs djihadistes en Syrie. « Je tiens même pas 30 minutes chez l'État islamique, je veux pas vivre sous la charia », a-t-il crié. Face aux questions pressantes de la cour sur sa conversion à l'islam en 2014, l'accusé continue à s'énerver. « Même converti, je ferai mes magouilles pour avoir de l'argent, je continuerai à aller aux putes, je vais sortir après mes 5 ans de détention provisoire, je vais récupérer mes plans d'escroquerie. Pour moi, dehors, c'est l'argent », déclare-t-il. Un franc-parler et un vocabulaire fleuri qui a laissé la cour hébétée. Son interrogatoire se poursuit aujourd'hui. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.
Recep Tayyip Erdogan persiste et signe. Le président turc a de nouveau appelé à boycotter les produits français pour protester contre les positions d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. Le leader turc affirme, je cite, qu'une campagne de lynchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans, accusant certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. De son côté, le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, a été reçu à l'Elysée. Il appelle les musulmans de France à soutenir le pays. Pour lui, il n'est pas raisonnable de dire que les musulmans sont persécutés dans leur pays. Il a cependant souhaité ce matin sur l'antenne de France Info que les enseignants ne montrent plus les caricatures de Mahomet dans le cadre de leurs cours et trouvent donc des solutions alternatives. Selon le politologue Frédéric Ancel, qui était notre invité hier, les raisons qui poussent Erdogan à mener cette campagne de dénigrement de la France sont avant tout liées à des difficultés sur le plan intérieur.
Il n'a pas beaucoup de moyens, et de moins en moins sur le plan socio-économique interne, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, qu'il en fait beaucoup sur le plan rhétorique. Souvenez-vous de ces dernières semaines, il y a eu un incident militaire, deux même d'ailleurs, entre la France et la Turquie. Les deux bâtiments de guerre turcs qui escortaient un bâtiment censé explorer du gaz naturel dans les eaux territoriales cypriotes et grecques. Puisqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion OTAN, Emmanuel Macron y va. On projette un navire de guerre sur place et on envoie 18 chasseurs-bombardiers Rafale à la Grèce. Qu'est-ce qui se passe ? concomitamment, très concomitamment, les bateaux de guerre turcs rentrent au port. Et c'est pour vous dire que sur le plan, alors ça c'est juste une, je vous donne un cas de figure militaire, mais sur le plan économique, cette situation est parfaitement désastreuse, et j'ajoute que, toujours en interne, M. Erdogan a perdu à la fois Ankara et Istanbul l'an dernier, aux élections municipales, de manière tout à fait transparente. Donc on est là sur une faiblesse qui le pousse, en réalité, à être d'autant plus vigoureux, violent et en fait grossier sur le plan rhétorique.
Voilà Frédéric Ancel sur l'antenne d'RCJ hier. A noté que certains sites internet français à faible protection ont été piratés hier. Les pages d'accueil ont été remplacées par des messages islamistes ou pro-palestiniens, des cyberattaques qui proviendraient du Bangladesh. Dans ce contexte, la menace terroriste serait au plus haut en France. C'est en tout cas ce que révèle une note envoyée à ses services par Frédéric Vaux, le directeur de la police nationale. Il indique qu'il est primordial de renforcer les mesures de vigilance déjà mises en place. Conformément à la posture Vigipirate en vigueur, il est demandé de sécuriser un maximum les rassemblements de personnes, notamment à l'occasion de célébrations religieuses chrétiennes de la Toussaint, mais également visant donc les lieux de culte musulmans dont les représentants ont publiquement condamné les attentats terroristes. La note évoque des attaques à l'arme blanche ou à la voiture bélier. Dans la foulée, Gérald Darmanin a également publié une note à l'intention des mêmes services au sujet de l'application des mesures de vigilance accrue suite à la publication de nouvelles menaces qui visent la France. Ces menaces qui ont été réitérées dans un communiqué de l'agence Tabat qui est proche de l'organisation Al-Qaïda. Vous écoutez RCJ, il est 8h26. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où l'actualité est légèrement plus souriante avec la réouverture de la station balnéaire d'Eilat, votée hier par le gouvernement.
Le hasard n'existe pas, de Joseph Auchert. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue, amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas. Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Auchert, disponible dès maintenant sur Amazon.
L'info en Israël.
Avec 569 nouveaux cas de contamination au coronavirus recensés dans les 24 dernières heures en Israël, l'épidémie confirme son ralentissement. Gérard Benamou, bonjour.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Israël, là où le gouvernement donc a opté pour la loi sur l'ouverture d'Eilat et la mer Rouge dans des conditions donc de quasi-absence du virus.
Oui, on peut parler carrément d'un déconfinement à la carte qui s'impose progressivement en Israël. Le tourisme, on le sait, joue un rôle important dans la crise économique imposée par la pandémie du coronavirus. Cependant, il n'est pas moins déterminant dans le système de propagation du virus. Aussi, le gouvernement a décidé de gérer cette contradiction en faveur d'une reprise contrôlée des activités touristiques. La région d'Eilat semble pouvoir répondre positivement à une telle contradiction. La décision du gouvernement permettra à ces sites, qui concentrent 30% du tourisme du pays, de reprendre leurs activités durant l'épidémie, le maintien de l'épidémie. Les visiteurs devront cependant présenter un test négatif. Le projet choisi par le gouvernement permettra de définir la ville de villégiature d'Eilat et les complexes hôteliers de la mer Morte comme des zones spécialisées, en tout cas exemptées du virus, échappant ainsi à la nécessité de certaines restrictions qui ont fait fermer des hôtels et des pensions de famille dans tout le reste du pays en raison de l'épidémie de coronavirus, toujours d'actualité. Après le feu vert de la commission ministérielle des lois, le cabinet élargi lui a donné son soutien dimanche. Le projet de loi sera soumis à l'approbation de la Knesset dans le courant de la semaine. Les deux zones désignées seront déclarées zones touristiques spéciales comme étant des îlots touristiques verts, donc peu affectés par le corona. La décision devrait aider à résorber en partie le chômage à Eilat et à la mer Morte et annoncer le réveil progressif de l'industrie du tourisme sinistrée. Les visiteurs devront se munir d'un certificat attestant qu'ils ont été testé négatif pour le coronavirus au cours des 48 heures précédentes. Une nouvelle législation doit permettre également à de nombreuses entreprises qui restent fermées ailleurs d'ouvrir spécifiquement pour les clients des hôtels.
Merci Gérard. Voilà, c'est la fin de cette édition à 11h, les mensuels Histoire. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.
C'était votre journal avec Best Fenêtre. Pensez à votre isolation. Le froid est bientôt de retour. Bruno et son équipe vous attendent pour vos projets de changement de fenêtre, porte-fenêtre, volet roulant, portail, motorisation. Ne perdez pas de temps à comparer. Appelez-nous. Best Fenêtre, certifié RGE au 01 43 61 31 16. Les meilleurs prix garantis. 01 43 61 31 16.
RCJ.